par rapport à tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, qu'il y a quelque chose, il y a une profondeur dans laquelle Dieu veut nous amener. Et depuis le début de ce culte, j'ai cette image que je vous partage, l'image d'une grande foreuse, une puissante foreuse, qui est à l'œuvre, et elle est à l'œuvre dans chacune de nos vies. Vous savez ce que c'est une foreuse, hein, une puissante machine qui tourne, et c'est, enfin, vous avez peut-être vu, hein, dans les déserts, ça tourne, ça cherche de l'eau, ou ça cherche du pétrole, et c'est très puissant, et je voyais... Vraiment, pour chacun de nous, en tant qu'Église aussi, cette foreuse qui est à l'œuvre, c'est la foreuse du Saint-Esprit, et elle creuse dans nos êtres intérieurs jusqu'au plus profond de notre être, parce qu'au plus profond de nous, il y a des nappes phréatiques immenses. Et il faut que l'eau, elle jaillisse. Mais alors, ça creuse, et c'est très, très, très profond. Donc, les foreuses, ça casse des roches aussi. Hein. Parfois, ça casse des... Il y a des lames qui doivent être changées, mais ça casse, ça pulvérise des choses dures là qui sont là, et ça nous parle aussi d'un travail de fond, mais le Seigneur est à l'œuvre, il ne va pas s'arrêter avant que l'eau vive jaillisse. Et c'est un travail parfois dur, mais quand la foreuse est en marche, on le sent dans nos vies, parce qu'on est un peu secoué, hein, c'est sûr, mais chacun de nous a d'immenses nappes phréatiques au fond, et les eaux d'en bas, elles vont rejoindre les eaux d'en haut, et ce sera glorieux. Alors, la semaine dernière, plusieurs d'entre nous, vous êtes allés, hein, je pense au Ouf Schmidt et puis à Michel et Lucie, vous êtes allés un week-end. Oui. Et j'ai eu des petits échos par Marc-Christine qui est allée aussi. On leur a fait faire quelque chose d'assez inhabituel, n'est-ce pas? On les a envoyés, chacun d'eux, individuellement, hein, pas en couple, hein, c'était bien, bien séparé, bien isolé, bien, hein, chacun d'eux, sans Bible, dans la nature pendant 2 heures, avec 2 questions, hein, c'est ça? Sans Bible, dans la nature, pendant 2 heures avec 2 questions, juste papier crayon pour noter ce que le Seigneur allait marquer, allait dire, quoi. Juste ça, hein, c'est ça. Je falsifie pas la vérité. Et puis, ça les a énormément bénis, tous ceux qui ont fait ça. Alors moi, je ne vais pas vous demander de faire 2 heures comme ça, non, ça ne va pas aller. Mais il y a une question que le Seigneur voudrait poser à chacun. Alors j'ai prévu je vais me rasseoir tout à l'heure là, et puis on va avoir un petit temps de calme, hein, Christophe, petit temps de calme. Avec une question que le Seigneur pose à chacun. Il l'a posée à ses disciples, et puis il voudrait la poser ce matin à chacun de nous. Pour vous, qui suis-je? Demande Jésus. Pour vous, qui suis-je? Alors attention, interdiction d'ouvrir la Bible, pareil. Ne cherchez pas la ou les réponses théologiques. Non, ce que le Seigneur demande, c'est votre connaissance personnelle, votre connaissance, vous savez, au sens biblique du terme, expérimentale, personnelle, quelque chose qui fait partie de vous. Pour vous, qui suis-je? Demande Jésus. Donc, interdiction de dire des choses théologiques. Jésus, c'est ta-ta-ta-ta-ta, parce qu'on l'a entendu, parce qu'on l'a lu dans la parole, parce que si, parce que ça. Non, non. Ce qu'il est pour nous, parce qu'on l'a vécu, on le vit, voyez? Alors voilà, on va prendre quelques minutes, et puis on va essayer d'avoir ce cœur à cœur avec Jésus. Pour vous, qui suis-je? Demande Jésus. Dans tout ce qu'il est. Dans tout ce qu'il est, et il est immense. Et on voit dans les évangiles qu'il a posé des questions, il a dit à Jésus, à ses disciples, mais pour vous, qui suis-je? Et puis Pierre a répondu, mais tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et il l'a dit, pas par connaissance intellectuelle, mais parce que c'était une révélation personnelle qu'il avait acquise. Mais cette révélation était très, très, très imparfaite, parce que quelques minutes après, ou quelques instants après, il a dit n'importe quoi. Il avait une révélation très incomplète. Et puis après, il y a Philippe qui a dit, mais Seigneur, montre-nous le Père. Et puis Jésus a dit, mais depuis si longtemps je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Et on sent cette tristesse dans la voix de Jésus, depuis si longtemps je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Et puis d'autres fois, Jésus est apparu, et puis les disciples n'ont pas du tout reconnu. Je vous rappelle ce passage où on l'a pris pour un fantôme, ce passage où on l'a pris pour un jardinier, ce passage où on l'a pris... Enfin, les disciples n'ont pas du tout reconnu. Et puis nous, on n'est pas mieux. Il ne faut pas croire qu'on est plus intelligent, plus spirituel, plus ci, plus ça. Et en fait, le Seigneur voudrait vraiment se révéler à nous dans toute sa richesse. Il a créé des milliards de galaxies, il a créé l'infiniment grand, l'infiniment petit, et il a une personnalité extraordinairement riche, extraordinairement complexe. Et puis nous, on a une connaissance tellement superficielle de qui il est. On a une connaissance limitée. Ou alors, on a découvert un aspect de la personne de Jésus, puis on croit que c'est tout. On dit, ben voilà, on sait, quoi. On sait. Et la pire chose qui puisse nous arriver, c'est de nous faire une image rétrécie, réductrice, de Jésus. Vous savez, une image, on l'a connue comme ci, comme ça, comme ça, puis point final, on connaît. Ce serait la pire chose qui puisse nous arriver, parce que ça veut dire qu'on enferme Jésus dans quelque chose. On se fait une image, et ça devient l'idolâtrie, vous savez, les images taillées là. On se fait une image réductrice. Il est infiniment, infiniment plus grand que ça. Et j'ai mis un petit peu ce qu'est Jésus, mais dans tout ce que je vais énumérer, d'abord, c'est pas du tout... il y a beaucoup, beaucoup plus que ça. Et en plus, certains aspects de Jésus, pour nous, c'est encore purement intellectuel, voyez, ou purement théologique, théorique. C'est pas descendu au fin fond de notre être intérieur, c'est resté superficiel. Et ça dépend de chacun de nous, en plus. Et puis ça dépend de notre avancement avec Jésus. Mais c'est pour vous donner un petit peu une idée de l'extraordinaire profondeur de la personnalité de Jésus, sachant que chaque aspect est infiniment... Et c'est infini, quoi. Vous voyez, dans chaque aspect de sa personne, on peut creuser, 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 c'est infini. Et il y a une infinité d'aspects. C'est comme la création, hein, c'est absolument infini. On ne sait pas combien il y a de galaxies, c'est énorme. Et bien, la personne de Jésus, c'est pareil, c'est même bien plus grand, parce que la création, elle est beaucoup moins immense que le Créateur lui-même. Alors, on connaît Jésus comme sauveur, on le connaît comme berger, il est aussi notre ami, notre conseiller, il est notre force, il est notre provision, il est l'agneau de Dieu, il est le prince de la vie, il est le bien-aimé du Cantique des Cantiques, il est aussi l'époux des noces des agneaux, de l'agneau, il est la parole de Dieu, il est le créateur, il est le serviteur, l'homme de douleur, le roi des rois, le Seigneur, il est l'enfant Jésus, il est le Messie d'Israël, il est l'étoile du matin, il est le lys de la vallée, et c'est infini quoi. C'est infini, mais chacun de ces mots que je viens de dire, c'est une réalité extraordinairement profonde. J'avais lu une fois l'histoire des sœurs de Darmstadt, pour ceux qui connaissent, hein, Basile et Aschling. Elles ont passé un soir de Noël à adorer Jésus comme l'enfant de la crèche. Et il y a une adoration très, très, très profonde qui est montée. Elles ont eu la révélation de Jésus, l'enfant de la crèche. Vous voyez, rien que ça, Jésus, l'enfant de la crèche, ça, c'est la profondeur de l'incarnation et de l'humilité de Jésus. C'est immense. L'homme de douleur, c'est... Ou là, peut-être un aspect qu'on a beaucoup de mal à connaître, parce que c'est ouf. Heureusement qu'il y a eu le film de Mel Gibson pour nous dire un peu ce que c'était, parce qu'on a un petit peu de mal avec ça. Enfin, il y a tous ces aspects-là. Il y a le lion de Juda, il y a aussi l'agneau. Et alors, on est plus ou moins familier avec certains aspects, mais d'autres, alors là, ça nous échappe complètement. Honnêtement, je dirais le Messie d'Israël, comme on n'est pas trop greffé encore avec l'Olivier Franc, ben, on ne comprend pas trop ce que c'est. Ça reste pour nous un mot. Voyez, et chaque mot, c'est une vérité très, très, très profonde. Et vraiment, ce qu'on peut demander au Saint-Esprit, c'est Saint-Esprit, mais montre-nous Jésus, et dans toute sa richesse. Parce qu'il y a une promesse, et cette promesse, elle est vraiment pour nous, c'est Daniel 11, 32. Ceux d'entre le peuple qui connaissent leur Dieu seront forts et agiront. Il y a une relation directe entre la force spirituelle, l'action, et puis la connaissance de Dieu. Et le Seigneur, il ne veut plus qu'on reste à cette connaissance superficielle de qui il est. Il veut qu'on aille profond, profond, profond. C'est la foreuse, vous savez. Il veut se révéler à nous dans tout ce qu'il est. Et 1 Jean nous dit, mais vous avez connu celui qui est dès le commencement. Il s'adresse au Père. Vous avez connu celui qui est dès le commencement. Et je crois que ça parle de l'être de Dieu dans toute son immense dimension, vous voyez. Après, les petits-enfants, ils connaissent le Père. Ils ont une petite vision, là, ils connaissent le Père, la sécurité, l'amour du Père, les bras du Père, c'est déjà immense. Hein. Les jeunes gens, bon, ils ont la parole, ils ont vaincu le malin, ils connaissent peut-être Jésus comme le guerrier puissant qui les aide à vaincre leurs ennemis. Mais nous sommes appelés à être des pères et des mères, on connaît celui qui est dès le commencement. Et ça nous parle d'une élévation, d'une amplitude de connaissance qui est immense. Quoi. Et je crois que vraiment le Seigneur veut nous connaître, conduire là-dedans. Et tout à l'heure, Huguette parlait de 1 Pierre. Et dans 1 Pierre, là, je vais aborder peut-être un aspect de Jésus, mais sachant que Jésus est extrêmement, comment dire, à la fois prévisible, parce qu'il est fidèle à sa parole, parce que c'est le Jésus fidèle, qui, on peut s'appuyer sur lui parce qu'il est infiniment fidèle, et en même temps, il est complètement imprévisible. À savoir qu'il apparaît dans des circonstances, enfin, sous des formes qu'on n'imagine absolument pas. Et ça nous déroute à chaque fois. Il a dérouté énormément ses disciples dans les évangiles, mais vous savez qu'il est apparu plein de fois dans l'Ancien Testament, sous une forme, sous une autre. Et il apparaît mystérieusement comme ça. Mais on se dit, ah ben oui, c'est Jésus. En fait, il apparaît dès le premier mot de la Genèse, mais c'est caché. Bereshit, au commencement, ça veut aussi vouloir dire un fils nous a été donné. Enfin, vous voyez, c'est... Il est mystérieusement, il apparaît, mais tout le temps. Dès le premier livre de la Torah, il apparaît. Il est tout le temps là, mais caché. Mais il veut qu'on le cherche. Hein. Invoquez-moi, je vous répondrai. Cherchez, vous trouverez. C'est un Dieu qui se cache, mais il veut qu'on le trouve. Et je crois que le Saint-Esprit veut mettre en nous ce désir, cette soif, cette passion de chercher. Paul disait, mais le connaître, c'était tout ce que je veux. C'est, tout le reste, je considère ça comme des ordures. Quoi. C'est connaître. Connaître Jésus, c'est plus important que chercher notre petit bonheur personnel, vous voyez ? C'est notre épanouissement, notre moi, notre bonheur, notre etc. Connaître Jésus, il faut que ce soit une passion qui prenne toute notre vie. C'est une passion, parce qu'il est digne d'être connu, parce qu'il est passionnant. C'est une personnalité absolument passionnante. Et on n'a pas arrêté, on aura l'éternité pour finir de le découvrir. Et donc, là, je vais aborder peut-être un tout petit aspect de la personne de Jésus, mais qui n'est peut-être pas trop habituel pour la plupart d'entre nous. Un tout petit aspect. Et donc, dans 1 Pierre, il y a deux termes, on a parlé des sacerdoces. Alors, oulala, c'est un mot compliqué. Nous sommes un saint sacerdoce. Alors, en français courant, parce que sacerdoce, je ne sais pas si tout le monde sait ce que ça veut dire. Bon, on parle de sacrificature, de prêtrise, oulala, qu'est-ce que c'est tout ça? Alors, dans la version Kuhn, ils disent... Nous sommes un sacerdoce, nous sommes un groupe de sacrificateurs mis à part pour Dieu. Un groupe de sacrificateurs. Qu'est-ce que c'est être sacrificateur? Ça encore. Et vous savez, initialement, je pensais parler de la sacrificature. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça veut dire être sacrificateur? Et je pensais dire toute la liste de ce qu'il fallait pour être un bon sacrificateur. Et puis, hop, Saint-Esprit, le Seigneur m'a arrêté. Non, c'est pas ça. Tu parles de Jésus. Point final. Vous êtes d'accord que si on connaît Jésus sacrificateur, si on l'adore comme sacrificateur, on va lui ressembler. Plus on adore Jésus dans cette telle et telle facette, plus on lui ressemble. C'est ça la clé. Hein. C'est pas il faut. Hein. C'est connaître, adorer, expérimentalement connaître Jésus. Donc, nous sommes appelés à être un groupe de sacrificateurs mis à part pour Dieu. Mis à part, ça parle de la sainteté. C'est ça, sainteté, c'est être mis à part. Et là, c'est plutôt la notion de la sacrificature avec Aaron. Aaron, c'était la famille d'Aaron. Elle était complètement mise à part. Dans l'ensemble même de la tribu des Lévites, les Lévites déjà étaient mis à part. Et Aaron, avec ses fils, était mis à part pour le service. Et c'est une image, ça préfigure nous. On est tous sacrificateurs. Dès qu'on connaît Jésus, on est mis à part pour être sacrificateurs. Et puis, dans 1 Pierre 2,9, il y a un autre verset. Nous sommes un sacerdoce royal. Alors, on ne parle plus de sacerdoce mis à part, mais un sacerdoce royal, c'est-à-dire un corps de roi sacrificateur. Roi sacrificateur. Il y a une notion de royauté qui apparaît. Donc, dans la première mention de 1 Pierre 2,5, c'est des sacrificateurs mis à part, notion de sainteté. Et dans la deuxième passage, 1 Pierre 2,9, c'est un sacerdoce royal, donc des rois sacrificateurs, notion de royauté. Et là, pour un juif normal, je veux dire, un juif orthodoxe, c'est complètement révolutionnaire. Bon, les sacrificateurs saints, ok. Toute la sacrificature selon Aaron, c'est comme ça. Hein. Les sacrificateurs sont mis à part, saints, et d'ailleurs, quand ils ne sont pas saints, il leur arrive des graves problèmes, et c'est la mort. Hein. C'est très très grave, c'est la mort. Donc ça, il y a plein de choses à découvrir avec la sacrificature selon Aaron. Hein. Mais là, on parle de sa sacrificateur, à la fois sacrificateur et roi. Et ça... Dans l'histoire d'Israël, c'est jamais arrivé. On est ou roi ou sacrificateur, mais jamais les deux ensemble. D'abord, les rois, c'était généralement pour Judas, c'est la tribu de Judas. Les sacrificateurs, c'est la tribu de Lévi. C'est pas les mêmes tribus, déjà, pour commencer. Et ils sont jamais les deux en même temps. Jamais, jamais, jamais. Alors, et nous, on est appelés à être des rois sacrificateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il faut aller très, très, très loin dans la Bible pour découvrir ce que c'est. D'abord, la notion de roi. Le premier roi qui apparaît dans la Bible... Eh ben, c'est un drôle de roi. C'est un drôle de roi, c'est le roi de Babel, c'est Nimrod. Il n'est pas dit explicitement que c'est un roi, mais on dit qu'il règne sur Babel. Donc, s'il règne, c'est qu'il est roi. Et Nimrod, ça veut dire rebelle. Ça veut dire rebelle. Donc, le premier roi qui apparaît dans la Bible, c'est un rebelle et il règne sur Babel. Alors, je ne vous dis pas, vous voyez tout de suite, hein, c'est un système humain, Babel. Un système humain qui est en rébellion contre l'ordre de Dieu. Et après, deuxième fois où on parle de roi, eh ben, c'est... Alors là, par contre, c'est un passage vraiment... On va le prendre. C'est Genèse 14. Et là, je vais m'attarder là-dessus. Genèse 14. Donc, on a des rois. Plein de rois. Une foule de rois. Alors, il y a les rois. Alors, je vous passe les... Ils ont des noms pas possibles. Hein, dont un, Kedor Laomer. Alors, serviteur d'un... Ça veut dire serviteur d'un dieu, une divinité, là. Alors, il y a tout un tas de rois. Alors, il y a deux groupes de rois, en fait. Il y a un groupe de rois qui est côté Babylonie. On va dire Irak actuel. Hein, tout un groupe de rois du Moyen-Orient. Et puis, un autre groupe de rois, eux, c'est côté Sodome-Gomorre, vous voyez, la tête de ces rois. Hein. Donc, on a deux groupes de rois, on va dire deux coalitions, deux systèmes politiques, l'un côté Moyen-Orient, Irak, et l'autre côté, mère morte, qui n'était pas morte à l'époque, pas trop. Donc, roi de Sodome, roi de Gomorre, et puis roi de Tsoar, ça vous dit tout ça, ça vous dit ça, tous ces noms-là. Donc, des rois. Et ces rois, eh ben, ça fait comme maintenant, quoi. Ils se battent. Il y a des conflits, conflits politiques, conflits économiques. D'ailleurs, quand on parle de Sodome et Gomorre, nous, dans notre mentalité française, Sodome et Gomorre, ça évoque des tas de choses horribles, côté plutôt mœurs, quoi, côté liberté des mœurs, sexualité et tout et tout. Mais ils avaient un autre grand péché devant Dieu. Et ce péché-là, il est décrit dans Ézéchiel. Qui dit, c'est curieux parce que Ézéchiel ne parle même pas du péché sexuel de Sodome et Gomorre, mais il parle d'un péché qui apparemment pour Dieu est très 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 grave et qui nous, on se sent très très concerné quand on lit ça. Alors il faut que je trouve Ézéchiel 16. Non, ce n'est pas Ézéchiel 16. Excusez-moi. C'est un péché vraiment grave et c'est. Alors il faut que je le trouve. Ça disait, ce passage-là nous dit que, vous savez, ils avaient du pain à satiété, ça parle de l'abondance matérielle, ils étaient dans l'insouciance et ils ne fortifiaient pas la main du malheureux et du pauvre. Et ça, c'est exactement le tableau de notre société occidentale. Du pain à satiété, une abondance matérielle incroyable, une insouciante tranquillité, et on ne fortifie pas la main du pauvre et du malheureux et de l'opprimé. Donc on a vraiment une, comment dire, dans les systèmes de royauté qui sont établis dans Genèse 14, on a vraiment le reflet de nos systèmes actuels, hein, systèmes politiques, économiques, et donc des conflits de puissance, on va dire. C'est comme au temps de la guerre froide, il y avait un bloc contre un autre bloc. Là, vous avez des blocs qui s'affrontent, des blocs pour des raisons économiques, hein, puisque les blocs de Babylonie voulaient asservir ceux de la mer morte, donc ceux de la mer morte se sont révoltés. Il y a une rébellion, et puis... Du coup, ceux de la Babylonie sont descendus pour étriper ou mettre un peu d'ordre dans la mer morte, etc. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, verset 8, le roi de Sodome, Gomorre, etc., ils sont tous sortis, ils sont rangés en bataille contre Kedor Laomer, roi des Lames, Tidéal, roi de Goyim, Ampharel, roi de Shinéar, Arioch, roi des Hazars, 4 rois contre 5. La vallée de Sidim était couverte de puits de bitume, verset 10, hein, donc Genèse 14, verset 10. Le roi de Sodome et celui de Gomorre s'enfuirent et tombèrent, et le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs prirent tous les biens de Sodome et Gomorre, toutes leurs provisions, puis ils s'en allèrent. Ils prirent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, ils s'en allèrent, Lot habitait à Sodome. Alors là, je vous rappelle l'histoire de Lot, on a eu un message de Vito, que j'ai retrouvé mai 2007, sur Lot, et comme quoi Lot avait sans doute un appel pour aller dans la ville, pour aller vers la ville, et Abraham vers la montagne. Et puis, Lot est allé vers la ville. Le problème de Lot, c'est qu'il n'a pas influencé la ville. C'est plutôt la ville qui a influencé, non pas lui personnellement, parce qu'il est resté toujours juste. Et la parole dit bien que c'est un juste, hein, qui tourmentait son âme à cause de tout ce qu'il voyait faire autour de lui. Mais par contre, la ville a sérieusement influencé sa famille, hein, sa femme, ses enfants, ses filles. Et il n'a pas lui-même eu d'influence. Et Lot, c'est étonnant de voir c'est un homme seul, un homme isolé. Il était, on va dire, il était à l'intérieur de ce système politique, hein, économique de Sodome et Gomorre. Il voulait se garder intègre, mais il n'avait pas de puissance. et il était isolé. Et en plus, il a été fait prisonnier. Et ça, ça nous parle, c'est vraiment une image de tous les enfants de Dieu qui aiment Dieu de tout leur cœur, mais qui sont pris dans les filets des systèmes politiques, économiques, culturels, sociaux de ce monde. Il est pris là-dedans, il est prisonnier là-dedans. Et puis de l'autre côté, on a Abraham. Verset 13, un rescapé va annoncer à Abraham l'hébreu, que donc Lot était prisonnier, hein. Celui-ci demeurait au chêne de Mamré, l'amoréen, frère d'Eschol, frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Alors là, chacun de ces mots est vraiment nous dit quelque chose. Hein. Parce que Abraham, il était au chêne de Mamré, c'est-à-dire près d'Hébron. Et Hébron, ça veut dire en hébreu union, compagnie. Donc Abraham, lui, était en communion. Il n'était pas isolé, il était en communion. Il était au chêne de Mamré avec ses deux frères, hein, Eschol et frère d'Aner, et chaque mot a une signification intéressante. Mamré, ça veut dire fermeté, vigueur. Eschol, ça vous parle de la vallée d'Eschol, hein, ça veut dire grappe de raisin. Entre autres, d'ailleurs, c'est le symbole de Josué. Et Aner, ça veut dire chute d'eau. Donc là, on a quelque chose de tout à fait différent de Lot. On a Abraham qui est en communion, qui a fait alliance avec des gens. Il n'est pas seul, il n'est pas isolé. Et puis, il y a une fraîcheur de vie spirituelle, chute d'eau, grappe de raisin, fermeté, vigueur. C'est tout à fait différent. C'est injuste aussi, mais il vit sa vie avec Dieu tout à fait différemment de Lot, voyez. Et il y a une force spirituelle qui est là. Et alors, désolé pour ceux qui ont l'image d'un Abraham, vous savez, le patriarche paisible, tranquille. Abraham, c'est un fameux guerrier. C'est un guerrier, c'est un vaillant guerrier, un stratège aussi. Alors, il équipe ses 314, hein, dès qu'Abraham eut appris que son neveu a été capturé. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Donc, un homme de guerre qui n'est pas du tout isolé. Il y a 318 hommes avec lui, plus les trois avec qui il a fait alliance. Il divise sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les bâtit, les poursuivit jusqu'à Oba, qui est au nord de Damas. Donc, c'est quand même pas mal. Hein, de la mer morte, là, il est allé jusqu'à Damas, en Syrie. On voit la détermination, la fermeté, la force spirituelle d'un Abraham qui veut récupérer, qui ne combat même pas pour lui personnellement, hein, mais il a un frère qui est prisonnier du système du monde, là, et il veut se battre pour lui et le délivrer. Et non seulement, donc on va dire, c'est aussi quelqu'un qui sait dire restitution. Il ramena tous les biens, y compris d'ailleurs ceux de Sodome et Gomorre qui avaient été pris avec Lot. Hein. Il ramena tous les biens, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Il ramena tous les biens. Donc non seulement ceux de Lot avec tous ses biens, mais aussi il ramène les biens des rois de Sodome et Gomorre, enfin des rois de la plaine de la vallée morte, de la mer morte. C'est pas mal quand même, restitution. Un Abraham qui dit restitution. Et un contraste fort entre Lot et Abraham. Et Sodome, le roi de Sodome, entendant ça, il est dit au verset 17, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer, des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Le roi de Sodome sort à sa rencontre. Pourquoi? Il veut faire une transaction. Il veut négocier avec Abraham, qui est un roi, quelqu'un d'intéressant, puisqu'il a récupéré tous ses biens à lui, Sodome. Donc, il se prépare à une petite transaction avec Abraham. Grande tentation, grand complot de l'ennemi, on va dire. Hein. Grand filet de l'oiseleur que l'ennemi voudrait déployer sur Abraham pour l'attraper et le ramener dans le système du monde, vous savez, dans ce système politico-économico-socio-culturel, etc., le ramener là-dedans. Et à ce moment-là, que se passe-t-il? Melchisédek. Juste à ce moment-là, Melchisédek. Alors Melchisédek, c'est qui Melchisédek? Il n'a ni père ni mère, nous dit Hébreux 7, il n'a ni commencement ni fin. Melchisédek, c'est Jésus. Vous auriez reconnu, vous, que c'était Jésus, hein? Parce que, vous savez, dans notre tête, on a quand même un petit fatras de petites images d'Épinal, hein, quelque part. On a tous les films, Zéphirelli et tout ça, dans la tête. Et puis, on a l'enfant Jésus dans la crèche, parce qu'on était petit, et puis tout ça. Enfin, bon, on a peut-être un arrière-plan d'une certaine dénomination. Enfin, on a tous les crucifix qu'on voit partout en Alsace, et puis on voit toute la peinture et tout et tout. On a plein d'images dans la tête. Et Jésus, il veut nous faire écraser, enfin, éclater toutes ces images-là, hein. Donc, Melchisédek, c'est Jésus. Et il vient soudain. Et là, Melchisédek, il est présenté, d'abord, Melchisédek, ça veut dire roi de justice. Roi de justice. Donc rien à voir avec les rois de Sodome, Gomorre, Babylonie, etc. Roi de justice. Et puis, roi de Salem. Alors, Salem, ça parle de la paix, Shalem, la paix. Et c'est aussi, d'après les exégètes, d'après les érudits, géographiquement, c'était le roi de Jérusalem. Donc c'est aussi quelqu'un qui est incarné, qui est vers la terre, là. C'est pas quelque chose de complètement céleste et un petit peu éthéré. C'est vraiment quelqu'un ancré dans la terre, roi de Jérusalem. Donc, roi de justice, roi de paix, on a déjà l'annonce du royaume messianique, du millénium, quand toute la justice et la paix couvriront la terre. Melchisédek, c'est ça, justice et paix. Et c'est très intéressant de voir qu'est-ce que c'est. Il est présenté aussi comme le sacrificateur, donc à la fois roi et sacrificateur. C'est le seul passage où on a effectivement les deux, roi et sacrificateur, avant nous. Mais nous, on l'est en Jésus, roi et sacrificateur, et il était sacrificateur du Dieu très haut, en hébreu donc de El Elyon. C'est pas n'importe quel Dieu, enfin quel nom de Dieu, c'est le nom du Dieu très haut, El Elyon, celui dont les pensées sont infiniment au-delà de nos pensées, celui qui est immense, qui trône dans les lieux célestes, c'est vraiment le Dieu très très haut. Et là on va regarder ce que fait ce Jésus en tant que roi sacrificateur, puisque nous sommes appelés d'après 1 Pierre, on est appelé à être roi et sacrificateur, donc c'est un modèle. Et je vous rappelle que c'est le message de Franck, on est, nous, en Jésus. J'aime bien son image du petit kangourou, vous savez, dans la poche. On est en Jésus, vraiment caché en Jésus, et tout ce qu'il fait, on le fait, si on est en lui. On est en lui. Donc, on est en Melchisédek. On est appelé à faire ce que Melchisédek fait. Et Melchisédek, première chose qu'il fait, il apporte du pain et du vin. Donc, vous avez vu, c'est un roi. Rien à voir avec les rois qui exigent des tribus. Qui exige, tu fais ça pour moi, tu fais ça pour moi, y compris tous les dieux des religions. Il faut m'apporter ci, il faut m'apporter des offrandes, il faut faire ci, il faut faire ça. Non. Melchisédek, le roi de justice et de paix, c'est lui qui donne du pain et du vin. Il apporte du pain et du vin. Et bien sûr, ça nous parle de ce qu'il apporte. Il est sacrificateur, mais c'est lui aussi le sacrifice. Jésus, c'est le sacrificateur et le sacrifice en même temps. Et le pain et le vin, ça nous parle d'une vie livrée. Donc, le royaume de justice et de paix, il est basé sur le don de Jésus. Et puis, nous, on est appelés à faire pareil. C'est un royaume où on se donne. C'est pas un royaume où on prend. C'est un royaume où on se donne. Et le pain et le vin, ça parle de la communion. Les relations entre les hommes, c'est basé sur des communions, les uns avec les autres. C'est pas basé sur des rapports de force, de pouvoir, de domination, de séduction, de manipulation, ni des échanges commerciaux. C'est basé sur la communion. Et ça c'est complètement révolutionnaire. C'est à l'opposé des fonctionnements des royaumes qui étaient avant, que ce soit Nimrod, que ce soit la Babylonie, etc. Tout à fait différent. Donc il fait apporter du pain et du vin. Première chose, donc sacrifice, tout ce système, ce nouveau royaume, il est établi sur le sacrifice de Jésus et il établit des relations de communion. C'est ce qu'on est appelé à avoir les uns avec les autres. Et puis après, deuxième chose, il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre ». Donc, quand on dit maître, en fait, c'est la notion d'enfantement, d'engendrement, de conception. Celui qui a enfanté le ciel et la terre, celui qui l'a conçu, qui l'a engendré. Donc, son rôle, c'est de bénir. Et nous sommes appelés, c'est un Pierre qui le dit aussi, vous êtes appelés à bénir. Et si on prend conscience qu'on est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, on est appelé à bénir. Et la bénédiction, elle est puissante. On a eu déjà plusieurs messages sur la bénédiction. Il y a, dans notre bouche, on a un pouvoir de changer, d'annoncer un royaume de justice et de paix dans lequel on est appelé à bénir. Et bénir, c'est appeler la vie de Dieu sur la personne qu'on bénit. Et la révélation de Dieu. Et là, il a béni par le El Elyon, pour que Abraham ait la révélation du Dieu très haut. Quand on bénit quelqu'un, vous rappelez, c'est le message de Saint Matthieu aussi sur tout le nom de Dieu. On bénit l'autre avec certains noms de Dieu pour qu'il ait la révélation, la communication de la puissance de Dieu reliée à ce nom-là et aussi la révélation de ce Dieu-là. Donc il a béni par le Dieu Elyon, El Elyon, maître du ciel et de la terre. Et après, au verset 20, béni soit le Dieu très haut qui a livré les adversaires entre tes mains. Donc le sacrificateur fait deux choses, il bénit l'être humain et il bénit Dieu. C'est ça le sacrificateur. Il se tient entre les hommes et entre Dieu. Il est là en milieu. Il bénit Dieu par son adoration, par sa louange, par sa consécration. Et il bénit les êtres humains. Il bénit le peuple. Et ça, c'est notre appel en tant que roi sacrificateur. Et en même temps, annoncer le royaume à venir, le royaume du roi de justice et de paix. Béni soit le Dieu très haut qui a livré les adversaires entre tes mains. C'est ce Dieu de paix qui écrase tous les adversaires sous ses pieds. On annonce un royaume dans lequel les adversaires de Jésus sont absolument détruits. Donc c'est en même temps un côté, disons, guerrier, quoi. C'est le Dieu très haut, le Dieu très saint, et sous les pieds duquel les ennemis sont écrasés. Donc on établit quelque part, par la bénédiction, quand on bénit le Dieu très haut, qui a livré les adversaires entre nos mains, on établit le royaume de Dieu. Vous voyez, en ce sens-là, on est aussi roi, parce qu'on établit un royaume qui est puissant, un royaume éternel. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il le reconnait comme le roi, le seul roi, le seul vrai roi de ce monde. Donc, est-ce que vous voyez là la confrontation violente, puissante, entre les deux systèmes de règne qui étaient dans ce monde-là, et qui est toujours dans notre monde à nous, et en même temps la subtile tentation du roi de Sodome qui veut récupérer Abraham dans son système à lui. Et comme Abraham avait rencontré Melchisédek, comme il a vu la communion, le pain et le vin, la communion avec Melchisédek, avec Jésus Melchisédek, il a pu résister à la tentation. Le roi de Sodome, au verset 21, dit à Abraham, « Donne-moi les personnes, prends pour toi les biens. » Donc, une petite transaction commerciale, là. Hein. Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. » Donc là, ça nous montre, il lève la main par le Dieu très haut. Ça veut dire qu'il a eu la révélation, à cause de la bénédiction de Melchisédek, il a eu la révélation du Dieu très haut. Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni une bride de sandales, pour que tu ne puisses pas dire j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui sont allés avec moi. Eux, ils prendront la part. Mais Abraham ne tolère aucun compromis. Et ce qui lui a donné la force de résister à cette séduction du roi de Sodome, c'est la rencontre et la connaissance intime de Melchisédek. Et nous appartenons à un royaume qui n'est pas de ce monde. Un royaume qui est à venir, le royaume qui sera établi sur cette terre au millénium, vraiment ce royaume-là, nous devons l'annoncer, nous devons vivre selon les principes de ce royaume. Et c'est seulement, en même temps, nous sommes confrontés à une grande séduction de la part du royaume de ce monde. Et c'est seulement par une communion intime, une connaissance, hein, c'est ce verset de Daniel 11, 32 que je vous disais, c'est ceux du peuple qui connaissent leur Dieu seront forts et agiront. Et juste avant, vous avez quelque chose d'assez terrible dans ce verset de Daniel. Parce qu'on parle de la séduction. Et on parle, alors ce que j'ai mis, on parle d'une terrible séduction et de ceux qui vont trahir l'alliance. Parce qu'ils n'ont pas justement pas connu correctement ils n'ont pas compris l'alliance, ils n'ont pas connu intimement leur Melchisédek et ils trahissent l'alliance. Ils profanent l'alliance. Et il y en a beaucoup qui vont être séduits. Donc on est dans un temps de grande séduction avec ces systèmes du monde. Qui veulent nous récupérer, il y a vraiment un enjeu spirituel, ils veulent nous récupérer. Le roi de Sodome, alors que, rappelez-vous, Abraham était vainqueur, il avait délivré Lot, il était vainqueur, et le roi de Sodome, subtilement, essaie de le récupérer pour lui. Et on est confronté journellement à cette séduction. Et c'est la seule chose qui nous gardera vraiment sains, et en même temps, comme vraiment efficace pour le royaume de Dieu, c'est la communion avec Melchisédek, le roi de justice et de paix, le pain et le vin, la dîme aussi, c'est un puissant moyen pour rester dans le système, dans le royaume de Melchisédek et non pas le royaume de ce monde. Je crois que la dîme, c'est vraiment un moyen de nous préserver, de préserver notre âme des séductions de ce monde. Et juste après, je crois que c'est une suite logique de la rencontre avec Melchisédek. Au chapitre 15, vous avez la fameuse alliance. Dieu conclut alliance. Une alliance. Il s'est déjà montré à Abraham avant ce passage de Melchisédek, mais c'est après la rencontre avec Melchisédek qu'il conclut la grande alliance, hein, avec les animaux coupés en deux, le feu de Dieu qui passe au milieu. C'est l'alliance éternelle conclue entre Abraham et Melchisédek, Abraham et l'Éternel. Et à la suite de ça, eh bien, vous avez tout le plan de rédemption, le peuple d'Israël qui a été choisi. Donc, c'est être roi et sacrificateur, c'est un grand appel sur nos vies parce que on est appelé à prophétiser, à annoncer le royaume de justice et de paix. Et c'est clair, il va être établi. Il va être établi au milieu de nous. Et il nous faut la connaissance. Le Seigneur nous dit, vous avez tous de la connaissance, et dans 1 Jean, il dit, vous avez tous de la connaissance. Vous avez tous de la connaissance. C'est l'onction, l'Esprit de Dieu en nous qui nous révèle Jésus. Jésus dit, il prend de ce qui est à moi, il vous le révèle. Donc il va révéler Jésus en nous. Et qu'il nous le révèle comme le grand, grand, grand Melchisédek, le roi de justice et de paix. Seigneur, merci. Seigneur, fais éclater toutes les choses étriquées, les révélations, peut-être bonnes, mais qui ont tellement, tellement élargi. Fais éclater en nous tout ce qui est rétréci dans notre connaissance de Jésus. Toute notre, tout ce qui peut être religieux, tout ce qui peut être calqué d'extérieur, tout ce qui a pu ternir ton image ou tout ce qui a pu l'enfermer. Seigneur, Saint-Esprit, viens, ton rôle, c'est de révéler Jésus. Alors viens nous révéler Jésus dans tous ses aspects, et en particulier aujourd'hui cet aspect du Melchisédek, le grand roi sacrificateur, à la fois sacrificateur, celui qui bénit chacun de nous et celui qui bénit Dieu, et en même temps le roi de justice et de paix, qui a payé le prix pour instaurer un royaume qui n'est pas de ce monde, mais un royaume qui va être établi sur cette terre, et que nous, rois sacrificateurs, nous sommes appelés à annoncer et à établir. Et garde-nous surtout, garde-nous de l'influence des rois de Sodome et Gomorre. Garde-nous, Seigneur, purifie nos âmes, nos cœurs, nos entendements de ce levain. Ne permets pas qu'aucun de nous soit comme Lot, qui était juste, qui t'aimait de tout son cœur et qui en même temps était, dans l'entendement, était terni parce qu'il était prisonnier des systèmes de ce monde. Dans son intelligence, il était comme prisonnier, il était faible, il était isolé. Alors qu'aucun de nous ne soit comme l'autre, Seigneur, mais qu'on soit né cette vigueur spirituelle d'Abraham et qu'on rencontre, chacun de nous, qu'on rencontre Melchisédek, qu'on ait la communion, le pain et le vin, les uns avec les autres et avec Melchisédek, Seigneur. C'est toi seul qui peux nous donner la force, cette vigueur spirituelle de tenir ferme et de dominer sur les principes de Sodome et Gomorre, sur les principes de Babylone, sur les principes des royaumes de ce monde. Nous sommes citoyens d'un autre royaume. Et ce royaume, c'est cette petite pierre qui va être lancée et qui va remplir la terre entière. Parce que la terre entière va être remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Et nous l'annonçons, nous le préfigurons et que ça vienne partie intégrante de nous. Dans le nom de Jésus. Amen.